Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
J'ai été délivré quand j'ai laissé les autres avoir raison. Et des fois, même les laisser faire des bêtises. C'est-à-dire, être persuadé que quelque chose, il faut quelque chose. Par exemple, ça s'est pas arrivé avec mon épouse, mais je prends une histoire, d'accord? Où la personne dit, on va acheter un meuble. Mais ça m'est pas arrivé, je parle pas de moi, hein, je parle d'un truc que j'ai vu vivre. On va acheter un meuble parce que ce meuble-là, il va aller dans ce coin-là. Et toi, tu as vu le truc, et tu sais qu'il faut, il y a 1,50 m entre les deux piliers, par exemple. Et on va acheter le meuble, ou la personne va acheter le meuble, parce que c'est pas de moi du tout. Et la personne va acheter le meuble, et elle voit un beau meuble d'1,80 m. Et toi, tu dis, mais écoute, le meuble, il va pas aller. Si, si, il va aller. Puis la personne est tellement contente. Tu dis, écoute, non. Si, il va aller. Et là, tu as deux solutions. Soit tu fais la tronche et tu dis ou tu souris tendrement, tu dis ben écoute, prends-le le meuble. Et là il y a comme une joie qui vient en toi et tu dis oh, je vais même l'aider à décharger le meuble. Et tu aides à décharger le meuble. Je pense à tellement de trucs que j'en pleure rire. Et alors là c'est jouissif parce que tu attends, je vais t'aider à te garer. Et puis tu fais reculer la personne. Et tu décharges le meuble. Et tu vois ces deux magnifiques piliers dans lesquels il y a 1,50 m. Et toi, tu prends ton pied à dire, attends, je vais nettoyer. J'en rigole. J'en pleure. C'est terrible. C'est terrible. Je vous assure. Vous voyez, la joie, hein, quand les autres ont raison, ça va. On peut même en pleurer de rire. Et puis, tu aides même l'autre à décharger le meuble. Tu loues même le camion pour aller décharger le meuble. Et puis, tu débarrasses entre les deux piliers. Et tu aides l'autre. Et puis, tu dis, zut, les piliers sont rapprochés, ma chérie. Franchement, quand ils ont fait les piliers, ils auraient dû faire un peu plus large. Mais peut-être quand même que tu avais raison. Puis on dira, tu te moques. Mais non, tu te moques pas. Laisse l'autre avoir raison. Amen. Et vous verrez comme c'est vraiment, ça amène des situations, t'en pleures de rire même 10 ans après, même 15 ans après. Et puis après, la personne, inévitablement, le temps va montrer qu'il y avait raison. Le temps va montrer qu'il y avait raison. Mais combien de fois on s'est pris la tête? Combien de fois on s'est disputé pour des choses? Ben, t'avais raison, il avait raison, elle avait raison. Mais on s'est pris la tête et puis on a cassé la relation. Et puis il y en a qui se sont fait la tête des heures, des jours, je sais pas. Des mois, hein. Puis après, ça devient même un style de vie. Il faut que j'ai raison. Moi, j'ai connu quelqu'un dans ma famille, il fallait toujours qu'il ait raison. Mais finalement, il n'avait pas d'amis. Alors, laisse l'autre, il a raison. Puis quand il va faire qu'il va se planter, il se souviendra que toi, tu avais donné un autre conseil et que peut-être tu avais raison en ce temps-là. Ça se passe souvent avec les enfants aussi. Pourquoi? Ça s'est passé, moi, enfant, avec mes parents. Hein? Mes parents me disaient, mais tu sais, c'est comme ça et comme ça. Mais moi, je voulais faire tellement mieux qu'eux. Ben, bien sûr, ils avaient tort. Bien sûr. Moi, ma vie était devant moi et j'allais faire mieux qu'eux. Et j'avais raison par rapport à eux qui avaient tort. Et puis, le temps démontre que bien souvent, dans des conseils qu'ils m'ont donnés, j'ai pas écouté. Eh ben, ils avaient raison. Donc, c'est pareil au niveau relationnel. Hein? Plutôt que de défendre bec et ongles nos positions, avec un risque de se brouiller avec les amis ou avec le conjoint. Arrêtons d'avoir soit raison, soit tort. Le fait, si je veux toujours avoir raison, l'interlocuteur, il va être comme sur la défensive avec moi. Et vouloir avoir raison, c'est toujours comme une sommation.
sans reddition. Là, moi j'ai raison. Ça, ça brouille les relations. On n'a pas envie d'avoir des relations avec de ce style de personnes. En plus, ça gaspille de l'énergie pour prouver qu'on a raison. Ça, la discussion prend une autre tournure. Parce qu'au lieu de parler de, finalement, du meuble entre les deux poteaux, on va même plus parler de la couleur du meuble, de la qualité du meuble, du prix du meuble. On va parler juste j'ai tort, j'ai raison, j'ai tort, j'ai raison, j'ai tort, j'ai raison. On se dispute et on oublie que finalement, à côté, il y a peut-être un autre meuble un peu plus petit. Finalement, il serait bien allé si on avait continué à chercher de quelque chose de plus fonctionnel. Hein? Et puis moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, t'es vraiment sympa, tu m'as démontré que j'étais un crétin, j'aime beaucoup parler avec toi. Vous avez rencontré ce style d'individu? J'aime beaucoup être avec toi parce que t'as toujours raison. Et puis chaque fois que tu me parles, je réalise que je suis un crétin et que je sais rien. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça, vous? Non, moi, pas encore. Pas encore. Et quelqu'un qui va toujours me démontrer que j'ai tort, ben, j'ai pas envie. Et bon, il m'a montré une fois que j'étais un crétin, qu'il me le montre tous les jours, ça me gêne. Donc déjà, au niveau du couple, au niveau des relations, des personnes avec qui on aimerait avoir une relation régulière, bon, on laisse l'autre avoir raison. Soyons plus tolérants. Parce que nous-mêmes, on va vers ceux qui nous écoutent. On va vers ceux qui essayent de nous comprendre. Alors que ce soit le racisme, que ce soit la religion, que ce soit la politique aussi. Moi, dernièrement, dans l'église, on a des férus d'informatique. Et il y en a qui sont pour d'elle, il y en a qui sont contre d'elle, il y en a qui sont pour... Pouh, il y a tellement de choses. Et à un moment donné, je leur disais, mais vous savez, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a des années en arrière, quand j'ai acheté ma première voiture diesel, où on m'a dit, tu sais, le diesel, c'est vraiment de la merde, n'achète pas de diesel. Hein. Puis aujourd'hui, ben quelques années après, ils ont tous des diesels. Ben, on a laissé. Ils avaient raison. Peut-être en ce temps-là, c'était pas la même technologie. Mais en attendant, le fait que les gens achètent, ça a été une amélioration de la technologie. Puis aujourd'hui, ils ont tous du diesel. Et ce sont simplement des exemples. Et j'ai l'impression qu'on revit ça des fois, même au niveau... Ça, c'est mieux que ça, ça c'est... Laisse, mais... Il faut qu'il y ait de tout. Les vêtements, c'est pareil. Pour une femme, il vaut mieux la jupe que le pantalon, hein. Non, non, moi je préfère la jupe. Moi je préfère le pantalon. La jupe, ça fait plus féminin. Ouais, mais le pantalon, ça fait masculin. Mais si elle veut se mettre un kilt, si elle veut se mettre un kilt sur la tête, c'est son droit. Et si elle veut mettre un chapeau rond, un chapeau carré, pas de chapeau, un foulard, une écharpe, c'est son droit. Et elle a raison. Amen. De quel droit on va se lancer dans des polémiques, puis souvent c'est pour imposer notre avis, c'est pour se faire valoir. Laissons la joie à l'autre d'avoir raison. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est heureux en face de nous, avec son stylo vert qui vous dit que c'est rouge. Bon, c'est sûr qu'au niveau de la discussion, après c'est un peu limité, mais enfin il sera content. Un autre point que nous allons développer aussi tout à l'heure, c'est penser que l'imperfection existe. Moi, quand je me regarde... J'ai une démonstration évidente, c'est que l'imperfection existe. Je m'aime beaucoup. Je suis la personne que j'essaye de m'aimer le plus au monde. Mais je suis tellement imparfait. Alors quand je réalise que je suis imparfait, j'admets que l'autre n'est pas parfait non plus. Ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, comme je vous l'ai dit, que chacun d'entre nous, nous sommes une école pour l'un et pour l'autre, j'ai rencontré des perfectionnistes. Et dans toutes les églises, il y a des perfectionnistes. Vous savez, les perfectionnistes, c'est ceux qui cherchent l'époux où il n'y en a pas. Ils vont être sur votre tête, même s'il n'y a pas de cheveux, ils vont dire, là-dessus, il y a un poux. Et même si un jour, tu n'as plus de tête, ils vont chercher ta tête pour chercher tes poux. Le perfectionniste, il va arriver ici, et comme il a vu la tâche là, dès qu'il va rentrer ici, il va voir que cette tâche. Et franchement, il n'aura pas vu qu'on aura changé les chaises, il n'aura pas vu qu'on aura mis des nouveaux rideaux, il n'aura pas vu une nouvelle lumière, il n'aura pas vu une nouvelle chaleur. La tâche. Le chrétien sans tâche n'existe pas. Ça, c'est pas mal. Hein. Mais moi, j'ai jamais vu un perfectionniste heureux. Et comme j'ai jamais vu un perfectionniste heureux et que j'ai envie d'être heureux, j'ai décidé, il y a quelques années, de plus être perfectionniste. Je veux pas être laxiste, je veux pas être léger. Je veux pas faire n'importe quoi, mais maintenant, je sais que l'imperfection, ça existe. Et j'ai décidé de faire ma vie avec l'imperfection. Je tends vers la perfection. Je suis dans un processus de croissance où je veux faire de bonnes choses. Mais à aujourd'hui, je suis imparfait et je le serai tout le temps. Et tous ceux qui m'entourent sont imparfaits. Et je veille à ce qu'ils se souviennent qu'ils soient imparfaits aussi. Parce qu'un perfectionniste heureux, ça n'existe pas. Vouloir améliorer toute chose, c'est s'engager dans une guerre qui est perdue d'avance. Je vais m'engager dans une guerre perdue d'avance. Alors, je remercie Dieu pour ce que j'ai. J'arrête de voir les trucs qui clochent. Et je fais avec les... Je suis content qu'il attache sur la moquette. Je suis pas content qu'il attache. Mais je suis content parce que j'ai vu la tâche, parce qu'il y en a qui ont aspiré la moquette, qui ont nettoyé tout autour. Et avant, il y avait plein de tâches, mais il en reste plus qu'une. Et celle-là, elle part pas. On va certainement avoir un nouveau... René, si tu as un produit pour cette tâche, par contre, ça m'intéresse, puisqu'il a travaillé dans l'entretien, une entreprise pendant pas mal de temps. Donc lui, il connaît. Voilà un spécialiste qui pourra... Voilà, j'ai la solution. Vous voyez ? Mais quand je rentre là, je vois qu'il y a... Finalement, il n'y a qu'une tâche, et partout, il n'y en a pas. Et je suis tellement content que la salle soit belle. Amen. Mais le perfectionniste, il va regarder ce qui va pas. Il va regarder la rayure sur sa voiture. Il a acheté une belle voiture, mais il y a une rayure dessus, là, maintenant. Et franchement, j'ai rencontré des gens, ça pourrissait leur journée. Même un accident de circulation. Moi, Dieu est bon, j'ai pas trop eu de problème avec la voiture. Mais mon épouse en a eu un tout petit peu plus que moi. Elle, c'était justement au niveau des largeurs entre les poteaux. Parce que quand j'ai fait les poteaux pour le portail, j'ai fait que 3 mètres. Deux. Non, tu l'as fait sur la Santana, tu l'as fait sur le... Mais t'as raison. Mais c'est une fois qui a marqué ma vie, chérie. Non, parce qu'elle n'a pas assisté à l'enseignement précédent. Mais dernièrement, ça a encore marqué ma vie. Non. Alors, on parle pas de la largeur entre les poteaux, mais finalement, c'est la ligne des voitures que nous avons qui lui correspond pas. Par exemple, le véhicule qu'on a là, bon, bah devant, si c'était un peu plus court, c'était mieux. La Santana, c'était si c'était un peu derrière. Toujours le véhicule qu'on a, c'était un peu le côté, c'était un peu large, un peu plus étroit. Donc, il y a toujours cette pensée féminine d'améliorer le style de la voiture et de pouvoir faire de la voiture que certains ont travaillé et calculé au niveau de la ligne, du dynamisme. Finalement, penser qu'une autre ligne conviendrait mieux et va personnaliser le véhicule que nous l'avons et lui donner une petite touche particulière. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? C'est quoi? On parle de quoi? Oui, mais Dieu m'est témoin que chaque fois qu'elle est arrivée pour m'annoncer ça, d'ailleurs j'ai vu sur sa tête qu'elle voulait m'annoncer quelque chose tout de suite. Il y avait le regard différent, il y avait le ton différent, il y avait l'attitude différente. Mais j'ai vu des personnes, des couples, des familles se disputer pendant au moins un jour suite à un accrochage. Ouais, on peut pas te laisser la voiture, ouais, tout le temps... Moi, la première des choses, elle est là, c'est dire, toi, t'as rien, alors il n'y a pas de problème. Amen. Et combien j'ai vu de personnes, c'est quand on rayait leur voiture, je crois qu'on aurait pu rayer leur femme, c'était pas un problème. Mais là, on avait rayé leur voiture. Vous rendez compte? On a rayé, hey, vous imaginez pas, leur voiture a été rayée. Ma femme, tu peux la rayer, c'est pas un... T'es à l'hôpital, chérie? Ouais, ok. Attends, parle mieux. Écoute, chérie, le téléphone que j'ai. Ouais, écoute, j'entends pas bien. Articule mieux. La voiture, elle est où? Je suis en réanimation. Mais la voiture, elle est où? Et j'ai vu, hélas, des personnes qui étaient tellement perfectionnistes qu'une rayure sur la voiture, ça allait leur pourrir la vie. S'il y a une rayure, et si vraiment c'est un gros problème pour toi, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelques années, on a inventé des garagistes. Et certains font de la peinture. Donc tu vas aller bénir. Amène ta voiture chez le garagiste et puis refais faire la rayure avec la couleur d'origine. Mais arrête d'être perfectionniste à ce point-là. Moi, je suis pour le fait d'avoir une voiture propre. Je suis pour le fait d'avoir... Mais de temps en temps, même s'il y a une petite miette sur le plancher arrière, sur le tapis de sol, sur le machin, franchement. Bon, faut pas qu'il y ait un pain en morceaux non plus. Faut pas qu'il y ait des araignées. Je crois qu'on doit avoir une voiture propre, c'est vrai. Mais s'il y a une rayure, franchement, la Terre, elle continue à tourner. Vous avez réalisé? La Terre, elle continue. Et le temps continue de passer. Alors, profite du temps présent, on l'a vu tout à l'heure. et puis apprends de l'autre peut-être certainement la patience, écoute-le jusqu'au bout parce qu'il va peut-être te dire que c'est pas lui qui l'a fait, c'est quelqu'un sur le parking, et puis profite qu'il soit là, apprends de l'autre, laisse-le s'expliquer jusqu'au bout, ne lui coupe pas la parole, et puis pense que la perfection n'existe pas, que tu t'es marié et tu te marres aussi des fois, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire, ça c'est pas le pire, c'est encore le meilleur. C'est une occasion que tu as de pardonner, de bénir et d'encourager. Hein, c'est pareil aussi pour les perfectionnistes. Moi, je me suis retrouvé là-dedans. C'est souvent quand l'enfant a une mauvaise note en mathématiques ou en géographie, ça devient le drame de la maison. Moi, j'ai vécu ça avec ma petite Laetitia qui est là, ou à l'école, elle a réalisé que l'école nous coûtait cher. Alors, elle a dit, je vais pas trop travailler, ça leur coûtera pas trop cher, comme ça. Et puis... Vous voyez, on peut tout tourner à l'humour. Et puis c'est vrai que des fois, elle arrivait, elle avait des mauvaises notes. Et ça a duré au moins 3-4 ans où j'étais irrité à cause des mauvaises notes. Et je voyais même pas les autres bonnes notes qu'il y avait à côté. Jusqu'un jour où je suis allé à Montréal et puis je parlais avec Jeff Lorrain, pour ceux qui le connaissent, et qui me disait, le problème que vous avez en France, vous êtes tellement perfectionniste, vous exigez que vos enfants soient bons dans tout, vous rendez pas compte de leur cœur, vous rendez pas compte des efforts, et puis vous allez même jusqu'à qualifier les gens avec un diplôme, et puis s'ils n'ont pas le diplôme, ils vont pas trouver de travail, alors que chez nous, on regarde à la capacité, on regarde au cœur. Et là, je dis, j'ai fait vivre 4 ans d'enfer, ma petite Laetitia. Et quand je suis entré du Canada, je lui dis, tiens, faut qu'on se voie. Elle m'a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je te demande pardon, ma chérie, parce que pendant 4 ans, je t'ai fait vivre l'enfer. Bon, toi aussi, tu m'as fait vivre un peu l'enfer avec tes sales notes. Mais, j'ai tellement vu aux notes que j'ai plus vu à ton cœur. Et puis on est pleuré. C'est vrai ou pas vrai, ma puce? Hein? Puis j'ai demandé pardon, et puis on a pleuré ensemble. Puis c'était formidable. Malgré moi, j'étais devenu tellement perfectionniste que je voyais que les résultats scolaires et j'oubliais le cœur qui battait derrière. Amen. Donc ça engendre tellement de choses mauvaises d'être perfectionniste. Hein? Éviter l'effet boule de neige, c'est le dernier point que l'on va voir peut-être ce matin. Éviter l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est, pour éviter cet effet, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est quand on reçoit une information et qu'on la grossit. On grossit l'information. Par exemple, on reçoit un coup de téléphone et puis on dit, ouais, tu sais, quand tu as dit ça, je me suis senti concerné. Et puis tu l'as dit de telles paroles que j'ai été comme accusé. Puis du coup, moi je voulais accuser personne, j'ai dit ça, mais je voulais pas te... Moi on était que tous les deux, tu m'as parlé comme ça, et puis j'ai senti que tu m'accusais, j'ai senti que tu m'en voulais. Et vous savez, il y a des professionnels là-dedans. Hein. Ils vous téléphonent à 22h le soir, « Ouais, tu m'as dit ça il y a 3 ans, et puis depuis que tu m'as dit ça, je fais plus ça. » Toi tu dis, « Moi il y a 3 ans. » Tu sais, tu as vu 10 000 personnes depuis. Mais il y a 3 ans, tu as dit ça. Mais c'est le cœur de la personne qui parle avec 3 ans de blessure. Puis la personne, elle est là, et finalement, elle, si elle se sent délivrée au fur et à mesure qu'elle parle, elle est peut-être délivrée, mais elle est en train de te filer ses démons d'accusation. Pour qu'elle soit pleinement délivrée, au lieu de simplement, elle n'est pas mûre du tout, elle parle tellement avec ses blessures, que tu as toutes les puissances d'accusation qui viennent sur toi, puis quand elle raccroche, tu lui as demandé pardon, tu as peut-être pleuré avec, mais tu te sens, tu dis... Ouais, finalement, alors, s'il y a 3 ans, je l'ai accusé, mais il y a combien de personnes qui souffrent encore à cause de moi? Et puis l'autre jour, j'ai pensé, il y a un tel, je l'ai pas vu depuis 2 ans. C'est vrai que maintenant, quand il me voit, il me dit plus bonjour. Et c'est vrai que l'autre qui me téléphonait régulièrement, il me téléphone plus. Et puis l'autre maintenant. Et puis la nuit, t'es là, puis t'arrives, t'as des difficultés à t'endormir. Et puis tu dis à ta chérie avant de t'endormir. Chérie, quand je parle, j'accuse les gens. Et puis elle est là. Chérie, quand je parle, j'accuse les gens. Et puis toi, t'as besoin de savoir. Chérie, quand je parle, ouais. Puis t'es là, ça y est, elle-même, elle a dit qu'elle m'a accusé. Ça, c'est l'effet boule de neige. Puis le lendemain matin, tu te lèves, t'as les yeux comme ça. Tu sais, et tu dis, alléluia, gloire à Dieu. Tu sais, t'as été, mais l'effet boule de neige. Puis ta chérie, elle se réveille, bien entendu, avant toi, puisque toi, t'as pas dormi du tout. Et tu dis... « Chérie, c'est vrai quand je parle, j'accuse les gens. Tu m'as dit ça hier au soir. »« Moi ? Je t'ai pas dit ça. Je t'ai réveillé. Je m'en souviens pas, je t'ai pas dit ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ben non, c'est l'autre qui m'a téléphoné à 10h et il m'a dit que... »« Non mais attends, mais c'est une personne à problème. C'est même pas son problème. C'est elle qui est devenue un vrai problème. Parce que cette personne a mis la zizanie là-bas. Mais plus personne ne peut parler. »« Ah bon ?» T'as été victime de l'effet boule de neige. Qu'est-ce qui a pas compris? Qu'est-ce qui a jamais vécu ça? ou tu as une difficulté dans une relation, quelque chose, et tu as l'effet boule de neige qui vient, les chrétiens super spi diront que c'est le diable qui vient pour t'accuser. Non, c'est aussi toi qui prends, bien sûr que le diable fait son œuvre, mais c'est toi qui as cautionné quelque chose, et ça devient un effet boule de neige. T'as ton banquier qui téléphone. Vous savez quand est-ce qu'il nous téléphone, le banquier? Vous le savez tous, c'est le vendredi. Ça, c'est une technique qu'on apprend dans les banques. Il te dit, il y a l'Italien Agio qui est encore passé sur votre compte et il a prélevé 50 euros. Et toi, t'es là, tu dis, il dit, il faut vite que vous passiez, il manque 20 euros et on vous bloque le compte si vous l'avez pas donné. À très bientôt, monsieur. Et il raccroche. Et toi, tu passes le samedi et le dimanche là-dessus. Eux, ils sont spécialistes du petit flocon de neige qui va devenir une grosse boule de neige. Et là, t'as deux solutions. Soit tu dis, je veux éviter l'effet de boule de neige, et on va voir comment on fait. Soit tu travailles avec cet effet boule de neige. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose qui te convient pas, ça vient et ça grossit. Et l'effet boule de neige aussi dans une relation, c'est quand tu discernes un peu une difficulté d'une personne et que tu vas te nourrir de la difficulté de la personne. Ouais, la personne, une fois, elle m'a menti. Et comme elle t'a menti, tu ressasses ça. Elle m'a menti. Donc, je peux plus lui faire confiance. Donc, dans tout ce que je lui ai dit avant, peut-être qu'il y avait du vrai, il y avait du faux, là, concernant sa position. Donc, franchement, j'ai fait confiance à cette personne-là. Mais où est-ce que j'ai mis les pieds là-dedans avec cette personne-là? Puis, cette personne, ça va devenir le centre de ta vie. Et tu vis que par cette... Mais, si la personne t'embête, dis-lui. Il y en a plein d'autres qui demandent d'avoir une relation avec toi. Amen! Regardez! Sortez! Vous n'allez pas faire 100 mètres que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui a besoin d'un sourire, quelqu'un qui a besoin d'un temps agréable, quelqu'un qui a besoin de rencontrer un air joyeux. Pourquoi tu te pourris la vie? Si Dieu te demande de couper une relation un temps, coupe-la, pourris-toi pas la vie. Moi, je me pourris plus la vie. Vous savez pourquoi? Je marche plus dans l'effet boule de neige. Je veux plus me compliquer la vie. Je ne sais pas si je serai là demain. Alors pour le temps qui me reste à vivre encore, j'espère que je serai là. Hein, vous êtes tellement super, et puis on passe du bon temps. Mais pour le temps qui me reste à vivre, alors je veux pas cultiver des choses. Et puis, franchement, vous savez ce qu'il dit les jeunes? Arrêtez de me prendre la tête. Et si on arrêtait de se prendre la tête? Vous aurez pas envie, vous, d'arrêter de vous prendre la tête? Oui ou non? Alors, on arrête de se prendre la tête. Arrêtons de nous prendre la tête. Les banquiers, ils savent quand il faut téléphoner. Il y a des spécialistes qui vont vous dire des paroles négatives bien à propos. Il y en a qui ne sont pas capables de régler leurs propres problèmes, qui vont les régler avec vous. Ça ne sera pas de leur faute. Ils ont un problème avec leur enfant, mais ça ne sera pas de leur faute à eux. Ça sera de votre faute. Ils ont un problème avec leur employeur, ça ne sera pas de leur faute à eux. Ça sera de votre faute. Ils ont un problème avec la société, ça ne sera pas de leur faute. Ça sera de votre faute. Pourquoi? Parce que vous aurez téléphoné à leur enfant, vous aurez téléphoné à leur employeur, vous aurez téléphoné au président de la République, vous aurez téléphoné même au pape en personne pour qu'il leur pourrisse la vie. Ça sera toujours de votre faute. Alors arrêtons de nous prendre la tête, arrêtons que nous ne soyons pas entre les mains du diable, j'ose le dire, quelqu'un qui va être celui qui va initier un effet boule de neige. Parce que dans une situation entre une personne et une autre personne, il y a un tout petit flocon de neige, mais moi je peux être celui qui va commencer à grossir la boule de neige. Quand les deux vont parler d'un événement, d'une personne, d'une situation, au lieu d'être cet homme de paix que la Bible nous demande d'être, je peux être celui qui va grossir la situation. Ah oui, il t'a dit, moi aussi il m'avait dit. Il t'a fait, moi aussi. Et là, tu es en train de grossir la boule de neige. Tu veux pas vivre cet effet boule de neige? Va pas leur lancer des boules de neige. Que la boule de neige, elle soit jamais grossie par tes propos. Amen. Qu'on évite l'effet boule de neige. Finalement, tais-toi quand tu parles. Alors, voilà, on a vu les 6 premiers points pour avoir une meilleure relation avec les uns et les autres, et puis dans le couple. Alors, je vous propose qu'on puisse prendre peut-être 5 minutes de pause, hein. Et puis, on va pas trop parler de ça, ou peut-être un petit peu pendant ces 5 minutes de pause. Et puis après, on fera des groupes. Et moi, j'encourage les couples à se mettre ensemble. Alors qu'il y ait des groupes de 4. Donc, 2 couples. Et puis, les célibataires par groupe de 4. Aussi, célibataires avec célibataires, les couples avec les couples. Et puis, que vous puissiez parler. Alors, sur les 6 points, par exemple, que chacun puisse dire, non, attends, on n'a pas fini encore. Bougez pas tant qu'on n'a pas fini, s'il vous plaît. Sur les 6 points, on va avoir un temps de vérité et de lumière. Et on va dire, dans ma vie, dans ta vie, quel est ton point le plus fort? Quel est ton point le plus fort? Et tu vas dire, si c'est deux couples, aux trois autres, moi par exemple, mon point le plus fort, à aujourd'hui et depuis quelques mois, je laisse l'autre avoir raison. Parce que j'ai compris que je me prenais la tête à toujours vouloir avoir raison. Et puis les quatre vont se prononcer comme ça. Hein? Et puis après, quel est le point sur lequel on va prier? Parce que tu vas travailler cette année, tu vas travailler pour l'améliorer cette année 2006. Alors, pas tous les points, mais un point. Par exemple, penser que l'imperfection existe, parce que je réalise que je me suis cassé la tête. Quand je rentrais dans l'église, je voyais que cette tache-là. Ou quand je rentre à la maison, je vois que, par exemple, il y a de la moquette dans le séjour et j'aimerais tellement avoir du carrelage, mais on n'a pas l'argent. Mais si tu as de la moquette et que tu n'as pas l'argent, marche sur la moquette. L'argent, prie pour l'argent du carrelage. Et puis l'argent arrivera en son temps. Mais arrête de te prendre la tête. Sinon, chaque fois que tu rentres dans ta maison, tu vois que la moquette. Puis tu vas haïr ta maison. Puis il y a peut-être qu'on dira ça. Moi je pense que l'imperfection existe. Et puis je voyais des choses comme étant imparfaites. Et finalement je vais rentrer dans un climat où je vais rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. Je vais arrêter. Ok? Voilà. Alors on prend 10 minutes de pause. Et puis après on vient. Et puis on fait les groupes. Ok? Ça vous va? Oui? Allez, bonne pause. Et puis... Alors ça fait du bien. Parce que nous on voit nos défauts. Mais les autres voient nos qualités. Heureusement, vous allez dire. Écoutez jusqu'au bout, profitez de l'instant présent. Apprenez de l'autre. Laissez l'autre avoir raison. Pensez que la perfection existe. Évitez l'effet de boule de neige. Quelques autres principes qui vont améliorer notre relation, notre communication, qui me semblent importants. C'est toujours de réaliser que tu es toi quand tu parles. Tu es toi quand tu parles. Et un principe que l'on a pris avec mon épouse le lendemain de notre conversion, c'était de pouvoir encourager quelqu'un chaque jour. Et on se levait le matin et on disait, mais on priait, on disait, mais Seigneur, montre-nous quelqu'un que l'on pourrait encourager, quelqu'un avec qui on aura un contact qui va sortir de l'ordinaire. On appellera ça un contact extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. De donner une bonne parole. Mais ça, c'est très simple, c'est une habitude à prendre. Quand je parle, par exemple, moi, j'essaye, je veux toujours est-il, même si des fois, je le fais pas forcément comme je voudrais, je veux encourager la personne à qui je parle. Et même que j'ai quelque chose qui peut être difficile à dire à la personne, un reproche à faire, mais penser qu'on puisse encourager. Les gens qui étaient au contact de Jésus, ils repartaient encouragés. Bon, les pharisiens, à un moment donné, ils ont voulu coincer Jésus. Ils n'avaient plus qu'une chose à dire, cet homme est un séducteur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement fait de reproches à Jésus qu'ils n'arrivaient pas à lui reprocher des choses valables. Et Jésus avait réponse à tout. Donc, n'ayant pas trouvé comment le coincer, il dit, mais cet homme, c'est un séducteur. Et Jésus a tout en pensant encourager, reprendre dans le but de faire du bien et de tirer vers le haut. Et ça, c'est une simple habitude finalement qui me semble qui peut être intéressante à prendre. Et c'est comme cela, entre autres, qu'on se fait des amis. On peut encourager un ami, on peut encourager une personne, les gens autour de nous. J'en ai parlé dans le couple, bien sûr, les enfants aussi, les encourager le matin. Je te souhaite une bonne journée, on va dire ciao à l'école. Je te souhaite une bonne journée. Il ramène une note. Si elle n'est pas forcément bonne, on peut les réprimander, pourquoi pas, mais aussi les encourager. Dire, écoute, là, je suis vraiment pas content, mais je reste persuadé que tu peux faire mieux, alors fais mieux, s'il te plaît. Vous avez dit ce que vous avez à dire, puis l'information passera de la même façon, et encore mieux, vous l'aurez propulsé vers le haut, au lieu de le propulser vers le bas, et de le descendre systématiquement. Donc, il y a une façon de parler qui peut être très, très, très intéressante. Pourquoi ne pas ouvrir la porte à quelqu'un ou dire simplement merci à quelqu'un qui nous ouvre la porte? Tiens, simplement. Ah, merci beaucoup, tu m'as ouvert la porte, ça se fait pas tous les jours, ça. Là, vous avez encouragé la personne, hein. La caissière, on peut l'encourager aussi. Ah, bon courage pour le travail que vous faites, c'est pas forcément évident. Ça coûte rien. Si vous voulez apprendre la France par cœur, ça peut. Merci pour le travail que vous faites. Ou bon courage, c'est pas forcément évident. Hein, Caro, c'est pas évident, hein. T'as déjà des gens qui t'encouragent? T'en as beaucoup ou pas beaucoup? Allez, sur 10, il y en a combien? 2 sur 10. Vous vous rendez compte? Alors, pourquoi il n'y en aurait pas 3? Et le troisième, ce serait nous. Encourager. Si on n'encourage pas, on va devenir ingrat. On pourra même être aveugle aux bons soins que les autres nous apportent. Parce que si vous vivez ce que vous vivez, c'est grâce à votre entourage. Je peux pas vivre tout seul ce que je vis. C'est grâce à mon entourage. Je suis pasteur de l'église, mais sans vous, je serais pas pasteur. Ça coule de source. Mais faut y penser. Alors j'ai envie de vous encourager pour que vous restiez. Et vous, vous avez peut-être envie de m'encourager pour que j'exerce pas mon ministère de façon difficile. C'est ce que la Bible dit. Hein, de prier pour vos conducteurs afin qu'ils n'exercent pas leur ministère de façon difficile. Et moi, j'ai connu des personnes qui ont arrêté d'être pasteurs d'une église qui apparemment fonctionnait à peu près parce qu'ils en avaient marre d'être découragés par leurs membres. Alors, bon, je peux pas prêcher pour moi, il y a d'autres pasteurs ici, mais pourquoi ne pas leur téléphoner quand tout va bien? Pourquoi téléphoner à un responsable quand ça va mal? Vous engendrez une génération de responsables. Moi, je me sens pas... Je suis pas parti pendant dans ces choses-là, c'est pas mon cas forcément. Je suis régulièrement encouragé, hein, et je vous remercie pour ça. Mais j'ai beaucoup de collègues qui ont la trouille du téléphone, parce qu'ils savent que quand le téléphone va sonner, ben ça va être parce que quelqu'un va pas. C'est un reproche, c'est une réprimande, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas compris, c'est une doléance finalement. Mais ils ont rarement des coups de fil. Tu sais ce que t'as dit hier, c'était super, ça m'a parlé dans le bon sens du terme. Et moi, pendant tout un temps, quand les gens commençaient à me parler au téléphone, il y avait la première partie que j'écoutais même pas parce que je me disais, qu'est-ce que cache la deuxième partie? Ah, tu sais, Jean-Claude, on a vraiment apprécié ce que tu as dit hier. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Ça, c'est la peau de la banane. Maintenant, on ouvre le fruit. Oui, mais quand tu as dit ça, j'ai pas compris parce que tu comprends. Et voilà, ça y est. Là, il y avait la banane. On va parler de la banane après, hein. D'accord? Du fruit. De ce qui se passe. Mais pensons à nous encourager. On peut téléphoner à quelqu'un. Moi, il m'arrive et je passe une petite partie de mon temps à envoyer des mails à des personnes que je n'ai pas vues depuis un an. Et j'écoute, je pense à toi. Je vais simplement dire que je pensais à toi. Je me souviens de ce qu'on a vécu ensemble. C'était super. Quand est-ce qu'on peut se revoir? J'ai eu un mail en début d'année de quelqu'un avec qui j'ai travaillé et qui me disait, écoute, tu me manques. Quand est-ce qu'on pourrait passer un bon moment ensemble? Ça m'a fait plaisir. Pour ceux qui le connaissent, c'est Famille, je t'aime. J'étais orateur dans leur mouvement, puis depuis 2-3 ans, ils ont pris de l'ampleur, nous on a fait pas mal de choses, et puis on s'est plus rencontrés. Et là, un mail tombe. Quand est-ce qu'on peut passer un bon moment ensemble? Puis moi j'ai passé un mail à quelqu'un à Paris, j'ai dit, écoute, il faudrait qu'on se voie cette année. Il me dit, oui mais quand, t'es tout le temps pris? J'ai dit, non, on va libérer un jour, et moi je viens. Je paye mon train, je viens, et on passe 5 ou 6 heures ensemble, puis je rentre dans la même journée en train. Parce que j'ai envie de l'encourager, parce que c'est quelqu'un qui a pris de l'importance au niveau même national et international. Et je veux qu'il sente que ce qu'il fait, ça m'intéresse, je veux l'encourager. Je veux pas qu'il soit tout seul quand on va... Je peux même citer des noms, Claude et Julia Payan. J'aime leur téléphoner, j'aime leur dire, écoute, je pense à toi, ce que tu vis, ça m'intéresse. Et votre fille, elle en est où? Ma fille, ça va mieux. Donne-moi encore des nouvelles parce que je veux prier pour elle. Vous savez ce que ça fait? Ça fait qu'on découvre le cœur de l'autre. Donc qu'on puisse s'encourager. Les célibataires hommes n'encourageaient pas les célibataires femmes de trop près, et les célibataires femmes n'encourageaient pas les célibataires hommes de trop près non plus. Tu sais, je veux vraiment t'encourager. Je sens que tu as des besoins en ce moment. Si tu veux, je peux pourvoir ces besoins. C'est pas ça du tout. D'accord? Pas ça du tout. Hein? Qui c'est qui a dit dommage, les gars, là? Hein? Mais sinon, même le potentiel qu'on a pour aimer, ce potentiel-là, il peut se retourner à ressentiment. Parce qu'on a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé. Et si j'aime pas, je vais éprouver des ressentiments. Je peux même penser que la personne, je vois plus depuis 2-3 ans, parce qu'elle a quelque chose contre moi, parce qu'il s'est passé quelque chose. Non, c'est juste les kilomètres. Il bosse, tu bosses, c'est tout. Encouragez quelqu'un aussi. Il y en a qui vous ont encouragé. Moi, je crois à la redevabilité. Tous ceux qui m'ont aidé dans le ministère, ceux qui m'ont aidé dans ma famille, ceux qui m'ont aidé financièrement, ceux qui m'ont aidé au niveau de l'affection, ben moi je suis très redevable, je les respecte et à un moment donné j'ai envie de les remercier. Mais je n'oublie pas que tu es intervenu dans ma vie il y a 10 ans, je n'oublie pas, sache-le. Sinon, on devient grand, gros, fort et ingrat par-dessus tout. Je suis ce que je suis. Et si un frère t'a été un instrument de Dieu pour te bénir, même financièrement, des fois, je crois que c'est bien de dire « Dieu m'a béni, merci Seigneur, c'est bien ». Mais c'est bien d'aller voir le frère et dire « Écoute, je te remercie parce que je suis tellement content, parce que tu as entendu Dieu au bon moment, et comme j'ai été béni par toi, toi tu vas être béni par Dieu aussi. Amen ». Et moi je dis souvent « Merci Seigneur », mais quand je regarde quelqu'un qui me fait un don, une offrande, qui prend du temps pour moi, Bernard il est là, Bernard qui appelle, j'aime beaucoup Bernard, pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Je crois que je connais un peu son cœur. Et quand il a vu chez nous, ben, ça fait des années, on aimerait avoir un placard pour mettre des affaires, et j'ai pas le temps. Parce que là, tout le week-end, j'ai fait les trois villes, c'est-à-dire Arles, j'ai fait Nice, j'ai fait Toulon, et puis lundi, c'était à Tonnins, et puis mardi, c'était à Villeneuve-sur-Lot, et puis mercredi, mon jour de travail, c'était encore des visites, et puis jeudi, c'était encore pour mercredi, c'était pour préparer là, jeudi, c'est pour préparer là, et mon emploi du temps est tout le temps comme ça. Et quand il a vu, il a dit, si tu veux, moi, je vais faire ton placard. Et il est venu. Ben, moi, je trouve que là, c'est... J'ai de la gratitude et je suis pas ingrat et j'ai pas dit merci Seigneur. Parce que sur sa carte d'identité, c'est pas marqué Seigneur. J'ai dit merci Bernard, oui ou non? J'ai dit merci Bernard. Je vais pas dire merci Seigneur. Ça voudrait dire sinon que c'est l'andouille du coin. C'est que Dieu se sert de lui et puis moi qui au lieu de lui dire merci, je vais dire ah merci Seigneur, sous-entendu sers-toi de n'importe qui. Non. Moi, je me souviens, René, au tout début, qui était avec nous à l'église, une fois, il m'avait dit, tu sais, il y a quelque chose que j'ai vécu, je peux le dire, René, le coup de l'aquarium, hein. Et puis, je commence à le dire sans avoir, c'était avec Pierre. Et puis, Pierre, vous savez, il est là, puis il est très naturel, et puis, Pierre doit déménager. Et puis, il y a René qui est là, c'était un bel aquarium, et il fallait porter l'aquarium. Et puis René, il prend du temps, il va avec Pierre et puis il porte l'aquarium, il pose l'aquarium et en posant l'aquarium, il y a Pierre, il regarde René, il fait « Ah, merci Seigneur ». Puis René, lui me voit, il me fait « Mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi il dit « Merci Seigneur » ? Moi, c'est René. » J'ai dit « Mais non, mais tu comprends, parce que il avait prié pour que Dieu envoie quelqu'un et puis tu as été cet ange-là, comme un ange qui est venu à un moment donné. Ah, d'accord, mais imaginez-vous, ça fait drôle quoi, hein ? T'es en panne en voiture, il y a quelqu'un, un bonhomme qui vient de dépanner, tu dis merci Seigneur. Mais il dit, attends, moi c'est Alphonse, hein, je sais pas. Hein. Mais je crois qu'il faut qu'on se coupe les ailes un peu de temps en temps. Si ça peut nous rapprocher un peu plus, vous pensez pas que ça vaut le coup de se couper les ailes un peu? Franchement, hein. Sinon, on va être tellement spirituel, c'est, tu vas te défoncer pour ton frère, pour ta sœur, mais tu vas le faire une fois ou deux fois. C'est pas que tu as besoin d'être remercié sans cesse, mais simplement le fait de s'encourager, de donner une bonne parole, d'être redevable, de dire, écoute, je loue Dieu, mais toi, je te remercie parce que quand quelqu'un vient vous amener quelque chose, bah, dites merci Seigneur si vous voulez, mais quand même, c'est lui qui a payé le gasoil pour vous amener la chose jusqu'à chez vous, non? Alors vous n'allez pas aller voir le pompiste pour dire merci pompiste. Non, non. Mais dites merci à la personne qui a pris du temps de venir vous voir. Amen. J'aime quand on se coupe les ailes comme ça. On est en train d'arrêter de planer. Bon, ça s'appelle être redevable. Et ça, un principe comme ça, ça change la vie. Et s'il y a un problème avec la personne qui a été l'instrument entre les mains de Dieu pour nous bénir, si après il arrive un problème, j'aurais tellement dit merci à Pierre pour tout ce qu'il m'a fait, que je dis encore merci à Pierre pour ce qu'il me fait, que je dis encore merci à Pierre pour ce qu'il... Je dis encore merci à Pierre, que si toutefois il y a un truc qui arrive entre Pierre et moi, je lui ai déjà tellement dit merci que la chose, ben, en contrepartie, il m'a rendu service 10 000 fois. Ben, en contrepartie, si une fois c'est désagréable, ça fait même pas bouger la balance. Vous comprenez? Mais si je dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, je me souviens même plus que c'est lui qui a été une occasion de bénédiction. Et le jour où il fait quelque chose qui me heurte, je vais lui en vouloir toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai dit merci Seigneur, il faut dire merci Seigneur, mais j'ai oublié que Dieu avait parlé à son serviteur. Et moi, quand quelqu'un me bénit d'une façon ou d'une autre, je me réjouis d'abord parce que je suis béni, mais je me réjouis parce que la personne va être bénie. Et je dis, ce qui est super, c'est que tu as vraiment entendu la voix de Dieu au bon moment. Amen. Dernièrement, il y a un couple qui est venu nous voir, puis il y avait une enveloppe, puis il y avait un peu d'argent dedans. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Il y avait un peu d'argent dedans. Ils disent, mais on a prié, puis on avait à cœur vraiment vous faire cette offrande. Puis quand j'ai vu la somme qu'il y avait dedans, je dis, waouh, c'est formidable. Ils disent, non, mais c'est pas grand-chose. Je dis, comment c'est pas grand-chose? Même 1 euro. Tu t'es levé le matin, tu as travaillé, tu as transpiré pour gagner 1 euro et tu me les donnes. Alors ça, je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que toi, tu vas être vachement béni. Parce que tu as su entendre Dieu, tu as su entendre la somme qu'il fallait mettre, même quand on donne à l'église. Dieu a parlé à chacun et puis on entend la somme qu'on doit mettre et on va être béni. Et le Seigneur dit pas merci Seigneur. Le Seigneur va dire merci Emmanuel, merci David, merci François, merci Alphonse, merci Roger, merci qui tu veux. Et le Seigneur se réjouit. Et il se bénit pas lui-même, Dieu. Il te bénit. Parce que toi, tu as entendu sa voix. Et c'est le même style de relation qu'on peut avoir entre nous. Se bénir, s'encourager, se donner simplement des bonnes paroles. Dire à quelqu'un, ce que tu vis, ça m'intéresse. Où tu en es, ce que tu vis, ça m'intéresse. Ça veut pas dire qu'on va tous se dire sur tout. Ça reste dans le secret, ça reste dans l'intimité. C'est encore ce qui va finalement grossir notre relation. C'est jamais parler mal sur quelqu'un, mais c'est quelque chose dans lequel, eh ben, Dieu est en train de travailler mon cœur, et puis je le partage, et puis on prie pour ça, puis on voit la grâce de Dieu. Et moi, je sais que si j'ai avancé, et le peu que je vis aujourd'hui, le peu que je vis, c'est parce que des hommes ont investi sur ma vie. Les premiers qui ont investi sur ma vie, c'est mon papa et ma maman. Amen. Alors, je peux que leur dire merci. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que des gens, ben, m'ont annoncé l'évangile, m'ont enseigné dans la parole. Et je ne vais pas cracher sur ceux qui m'ont annoncé la parole. Et je ne vais pas cracher sur ceux qui m'ont aidé. Si j'arrive à manger aujourd'hui, c'est parce que des jours où j'avais pas à manger, eh ben, on m'a donné à manger. On m'a amené à manger à la maison. Et je peux vous faire aujourd'hui une liste des personnes qui m'ont amené à manger à la maison pour ma femme et mes enfants quand on n'avait pas à manger. J'ai dit merci Seigneur après, quand j'avais la nourriture devant moi. Mais la bise, je l'ai pas fait à Dieu. J'ai fait à ceux qui portaient le cajot quand ils sont entrés dans la maison. Et je suis redevable. Et je suis reconnaissant. Pas que je leur redois quelque chose. Redevable, dans le sens, je leur redois au minimum le respect. C'est la seule chose. L'honneur et le respect. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont donné un haricot une fois que je dois leur en donner un autre une autre fois. Vous comprenez les choses? Voilà, donc, encouragez quelqu'un chaque jour. Faites-le, c'est un nouveau style de vie, me semble-t-il, peut-être. Mais ça vaut le coup de le vivre. Un autre point. C'est n'accusez plus les autres. Alors, sur encourager quelqu'un chaque jour, faut dire des versets bibliques, quand même, nous sommes dans une église. 2 Corinthiens 13, verset 1er. Maintenant, soyez dans la joie, cherchez à être parfait, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix et le Dieu d'amour sera avec vous. Imaginez-vous ce verset. Peut-être je vais prêcher là-dessus dimanche, tiens. Encouragez quelqu'un chaque jour, non, 2 Corinthiens 13, verset 11. Maintenant, soyez dans la joie, cherchez à être parfait, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix et le Dieu d'amour sera avec vous. Mais le plus beau verset que j'ai trouvé concernant l'encouragement, écoutez, je vais prêcher là-dessus dimanche, donc je ne vais pas trop en parler, c'est 1 Thessaloniciens 5 au verset 11. Vous savez ce qu'il est dit? Écoutez la beauté de ce verset. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Vous vous rendez compte? Encouragez-vous, comme vous le faites déjà, et construisez la communauté comme vous le faites déjà. C'est-à-dire, quand j'encourage mon frère, je suis participant à l'œuvre de Dieu. Mais ça, je pense que dimanche, on va revenir là-dessus. Donc, deuxième point, n'accusez plus les autres. Dès que quelque chose cloche, par exemple, on a tendance à se défausser, à dire c'est la faute du voisin. On en a parlé un peu ce matin. Ça, c'est le jardin d'Éden. C'est pas moi, c'est celle que t'as mis à mes côtés. C'est pas moi. Moi, non, no problème. Adam, il a dit ça. Il dit, par contre, celle que t'as mis à mes côtés, là, c'est elle qui a bouffé le fruit. Hein. Franchement, si elle avait pas bouffé le fruit. Déjà. Ben ça, cette pensée-là, adamique, elle nous poursuit encore, aussi bien les hommes que les femmes. C'est la faute du voisin. La voiture marche pas. On va même pas comprendre qu'elle marche pas maintenant. Et tu dis à ta femme, je comprends pas, je t'ai donné, elle marchait. Ben oui. Et toi, ce matin, elle marche pas. Ouais, mais t'as laissé le contact. Non, chérie. Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'elle marche pas? On pense même pas qu'avant de mourir, il vivait. Avant de tomber en panne, ben, elle marchait. Le mot accident, c'est quelque chose qu'on prévoit pas. Mais nous, face à un accident, ben, c'est la faute de quelqu'un. Face à une panne, mais qu'est-ce que t'as fait? Elle est rayée. C'est, on ne l'a pas rayée à moi, on l'a rayée à toi. Quand toi, tu l'as pris. Et on cherche. Souvent, on peut avoir cette tendance à la maison est mal rangée, c'est toi. T'as laissé traîner tes chaussettes. Bon, y a peut-être les chaussettes, mais y a pas que ça, chérie. Hein? La maison est mal rangée, c'est pas de ma faute. Ben, range-la, la maison, si elle est mal rangée. Si les poubelles sont pas sorties, franchement, sors-les. Les courses sont pas faites, va les faire. Y a pas une bonne ambiance dans la maison, mais une bonne ambiance. Tu trouves qu'elle est mal peignée? Paye-lui le coiffeur. Elle n'a pas de jolis vêtements? Paye-lui des vêtements. Elle n'a pas envie de rire? Fais-la rire. Déguise-toi, habille-toi en clown, fais quelque chose, ou deviens plus sympa. Elle n'est pas marrante? Fais-la rire. Achète des DVD comiques, apprends des blagues. Fais quelque chose, fais le clown pour elle. Défonce-toi pour qu'elle rigole. Mais j'y suis pour quelque chose. Mais c'est impossible d'être heureux si je suis toujours en train d'accuser, ou souvent j'accuse les autres. C'est tellement difficile d'être heureux comme ça. Toujours est-il, c'est à nous d'affronter nos difficultés, hein. Et c'est pas à l'autre. J'ai la libre initiative. Donc, j'arrête de chercher la faute de l'autre. J'arrête de chercher les poux sur la tête de l'autre. Mais je regarde d'abord les poux que j'ai, moi, et puis, j'assume. Matthieu 7, verset 3 dit, tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Et ce qui est dit dans Matthieu 7, verset 3, c'est dit également dans Matthieu 7, verset 4 et dans Luc 6, verset 42. C'est repris au minimum 3 fois dans la parole de Dieu. Un point qui me paraît important aussi pour qu'on ait des relations plus sympas, plus cool entre nous, dans le couple, dans la famille, avec les enfants, c'est accepter qui vous êtes. J'accepte qui je suis. On a vu ce matin que j'étais une créature merveilleuse. Peut-être que vous aussi, vous êtes des créatures merveilleuses, je sais pas. Vous le savez. Moi, je sais. Mais quand je m'accepte avec mes défauts et je m'accepte aussi avec mes qualités. Et vous avez vu le constat que vous avez fait durant les 2 précédents exercices. Vous-même, vous avez tous réalisé que vous étiez comme des observateurs de vous-même au travers de vos défauts. Et pour certains, ce qu'on a entendu ce matin, alors que vous voyez vos défauts, les autres voyaient dans ce qui pour vous était un défaut comme une qualité que vous aviez. Oui ou non? Et ce matin, la plupart d'entre vous, vous étiez étonnés de dire, moi je voyais mon défaut et l'autre, il a vu plein de qualités en moi. Amen pour cela! Donc, acceptez-vous avec vos défauts, vous les connaissez, n'en faites pas une montagne. N'en faites pas une boule de neige. Parce que le diable va faire que tous vos défauts, il va vous les mettre devant vous comme une montagne. Et vous allez vivre avec cette montagne devant vous. Ça, c'est le piège du diable. Vous allez perdre du temps à vouloir résoudre vos problèmes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai des défauts, je veux résoudre mon problème. Et tu oublies d'avoir un temps agréable, tu oublies d'encourager les autres, tu oublies de plus accuser les autres, tu oublies tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. À cause de ça. Mais regarde! Les autres t'ont dit que tu avais des qualités et te l'ont dit ce matin. Alors accepte-toi avec tes défauts, travaille tes défauts pour qu'ils deviennent des qualités, mais vis avec tes qualités. Dis à ton voisin, vis avec tes qualités et tes défauts. C'est ça, s'accepter soi-même. Je suis pas parfait, mais je suis en marche. Et jusqu'à preuve du contraire, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il faudra que vous me supportiez si vous voulez qu'on marche ensemble. Mais j'ai une bonne nouvelle pour moi. Vous en avez qu'un à supporter. Moi, avec les enfants, j'en ai presque 200. Ça va? C'est réconfortant, non? Pour vous. Que ceux qui font la sieste continuent à la faire. Nous, on va parler un peu plus doucement. Pour pas les réveiller.
Mais non, David.
Donc, moi, je veux d'abord me traiter avec amour et tolérance. Comme je m'aime beaucoup, je m'aime énormément. Je veux me traiter avec beaucoup d'amour. Mais amour et tolérance, c'est 2 mots qui vont ensemble. Donc, je vais tolérer mes défauts. J'accepte mes défauts, je tolère mes qualités, j'accepte mes qualités. et je vais travailler sur mes défauts pour qu'ils deviennent une qualité. Mais je sais que ce sont des défauts encore maintenant. Et puis si vous n'êtes pas content de mes défauts, je vais vous dire, vous en avez tous aussi. Et si vous n'êtes pas content de mes qualités, vous en avez tous aussi. Amen, amen, amen. Le psaume 139, verset 14 nous dit, « Je te célèbre, car je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Je te célèbre parce que je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont des merveilles et moi je suis une de ces œuvres. Vous voulez voir l'œuvre de Dieu? Look, je suis un chef-d'œuvre. Hein? Vous êtes tous des chefs-d'œuvre créés par Dieu. Des merveilleuses créatures, c'est les œuvres. Contemple les œuvres de l'Éternel. Mais ici, il n'est pas question simplement des arbres, des petits oiseaux, des vaches et des cochons. L'hippopotame, c'est une œuvre de l'Éternel. Et franchement, entre contempler un hippopotame et moi, je préfère me contempler moi. Donc nous sommes tous en processus de croissance. J'ai mon histoire, j'ai mon origine, j'ai mon caractère, je sais qui je suis à peu près, je m'accepte. Je me contente pas de qui je suis parce que je veux le meilleur pour moi. C'est ça être dans un processus. Je veux le meilleur pour moi. Je veux aller plus loin, je veux devenir, sans être perfectionniste, encore plus parfait dans certains domaines, je veux viser l'excellence, mais je m'accepte. De toute façon, franchement, je dois faire la vie avec moi-même. Je dois me supporter toute ma vie. Et comme j'ai pas envie de me tuer, parce que je serais pas content si je me tue, je serais un meurtrier si je me tue. Donc je veux vivre longtemps avec moi, alors je me supporte, je m'aime, et puis je m'encourage. Je me dis, Jean-Claude, vas-y, hein. Contemple le spectacle, mais vas-y, fonce. Que l'Éternel puisse se servir des qualités et les défauts, il va s'en occuper aussi. Voilà, voilà notre vie dans laquelle nous sommes. Alors là, s'il y a un endroit où j'estime en toute humilité que je suis champion du monde, c'est bien celui-là. Apprenez à rire. Ah, moi j'aime rire. Mais vous savez, pour apprendre à rire, j'ai dû apprendre à rire de moi-même. À faire le constat de qui j'étais et à rire de mes erreurs. Et franchement, ma fille Sandrine, qui est là, il y a une dizaine d'années, elle m'a offert un petit tableau. Et sur ce petit tableau, je l'ai toujours sur mon bureau, il y a un écrivain que je connais pas, c'est A. Chamfort. Je sais pas si c'est Alain, André, Alphonse, Alfred ou Auguste ou je sais pas quoi. Et dessus, il y a une ligne. C'est marqué, une journée où on a pari est une journée de perdu. Tu te souviens, Sandrine, tu m'as offert ça? La plus ratée de toute votre journée est celle où on a pari. Non, enfin bon, elle était sur le bureau. Et franchement, rigoler. Vous savez, elle n'est pas là, Marie-Claire, c'est dommage, je vais parler un peu de notre vie privée. En ce moment, je suis champion dans les chorégraphies. Pourquoi vous rigolez? Je vois des sourires moqueurs dans certains. Et mais je fais le clown, mais elle pleure de rire. Et le matin, je me lève, je la fais rire. Je saute sur le lit. Ouais, je saute sur le lit. Puis, je suis content, Puis après, je dis, tiens, regarde, je vais donner des cours de danse. Puis je vais, Alors bon, et en pyjama, c'est beau, c'est un vieux pyjama collant, là. C'est extraordinaire, je vais pas tout vous raconter. Mais, rigoler. Dis à ton voisin, rigole. Arrête de faire, dis-lui, tu te fatigues plus à faire la tronche qu'à rigoler. Achète un nez rouge, fais le clown. Raconte des blagues, même sur les blondes, si tu veux. Mais raconte des trucs, même si eux, ils rient pas. S'ils rient pas, tu te forces à rire. Jusqu'à ce qu'ils rigolent. Mais bouge, fais quelque chose, fais travailler tes muscles, là, rigole, plaisante. Sinon, tu perds ton temps. Il y a tellement d'événements naturels catastrophiques que si tu rigoles pas, alors moi, je compose des chants. Ah ouais? Mais demandez, elle est pas là, c'est dommage. J'ai composé, va la chercher, parce que ça m'embête de penser. David, va la chercher, s'il te plaît. J'ai composé des milliers de chants. Des milliers de chants, j'ai composé. C'est des chants sur elle et sur moi. Mais on rigole, elle me fait, mais arrête, arrête, elle pleure de rire. Puis je vous dis pas ce qu'on dit dans ces chants-là. Alors maintenant, je l'amène dans mon trip. Vous savez ce qu'on fait? On fait des comédies musicales. Quand on prend le café, je fais, et je te sers le café. Et j'y réponds moi. Et elle, elle rigole. Je parle de ce qu'on vit, chérie, il faut que tu sois là. J'ai parlé que je donnais des cours de danse à la maison. Qu'est-ce que je fais? Des cours de chant. que je compose, que je saute sur le lit, et je dis, maintenant, on est dans une période comédie musicale. Hein? Hier, on en fait, tu te souviens, celle d'hier? C'était autour du café. Alors quand je lui fais, et je prends le café! Puis elle rigole, je fais, non, réponds-moi. Et elle peut pas, je fais, vas-y. Puis elle me dit, et je vais prendre ton café. Je lui dis, tu chantes mal, voilà comment on chante. Mais comme deux enfants, quoi. C'est vous, c'est pas vrai, chérie, qu'on vit ça? Hein? Apprenez, parce qu'on parle, apprenez à rire. Demandez à Jean-Philippe la première fois qu'il est venu à la maison. Mais demandez-lui. Mais c'était fou la première fois qu'il est venu à la maison. Ma femme était assise à côté de moi, j'ai dit, tu me passes le sel? Elle m'a dit non. Je me suis levé, elle s'est levée, on s'est roulé par terre, on s'est bagarré. Ouais. On s'est bagarré par terre. Et mes enfants disaient, non, mais c'est normal, continue. Et nous, on se bagarrait par terre, lui deux. Mais faut rigoler dans la vie. Sinon, tu dis, fais-moi passer le sel? Dis non, tu dis, puis pendant 15 jours, tu ne lui parles plus parce qu'elle t'a pas passé le sel. Mais si elle te passe pas le sel, tu le prends, tu saupoudres un peu la tête. Tiens, maintenant t'es salé, ma chérie. Mais je t'aime, tu te roules par terre, vous bagarrez, c'est bon, quoi. C'est le full contact. Le contact pour les foules. Voilà. Riez. Riez. Donc, rire de nous-mêmes d'abord. Ouais, c'est bon, ça, hein. Et si t'es susceptible, ben c'est le moment de rire. Quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est que t'as envie de... Tu sais que tu commences à être aspiré par l'intérieur. Tu sais, t'as de l'huile qui commence à sortir. Rigole de ce qu'il dit. Si ça te touche, rigole. Quand t'as une grosse facture d'EDF qui arrive, eh ben rigole. Rigole. Un coup de téléphone pénible, quelqu'un qui te reproche quelque chose que t'as même pas fait, pff, rigole. Moi, je me souviens une fois, j'étais il y a de nombreuses années, au début qu'on a planté l'église. Là, il y a un vieux pasteur qui vit plus aujourd'hui, et il me dit, tu sais, il y a des bruits qui courent sur toi. On était encore à Fouleron. Je dis, ah ça, il y en a eu, il y en aura encore, les bruits qui... Non, mais les bruits qui courent. Les bruits, ils courent, hein, tu sais, ils courent. Et puis, je dis oui, ça m'étonne pas. Il me dit, tu veux savoir lesquels? Je dis, allez, vas-y. Il me dit, écoute, paraît qu'une fois, tu as prié pour des gens, il y a une femme qui s'est approchée et elle s'est mise nue devant toi. Je lui dis, écoute, elle s'est mise nue devant moi. Je dis, c'est dommage, j'y étais pas, mais elle était bien faite quand même. Alors lui, il a éclaté de rire. Je lui dis, mais dis-moi, est-ce qu'elle était bien moulée? Elle était bien, elle avait, hein? Il me dit, pourquoi tu dis ça? J'y parce que je regrette de pas y être ce jour-là, quoi, c'est tout. Mais il faut rigoler, sinon vous allez faire quoi? Ouais, ils ont dit ça sur moi, mais tu te rends compte, tu vas répondre. Ouais, mais elle était pas nue, elle c'est pas vrai, j'étais pas là. Tu t'en sors plus. Rigole. Je pense à plein d'autres choses que je dis pas. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Rigole. La femme du proverbe, la femme vertueuse du proverbe 31, verset 25, elle se rit de l'avenir. C'est-à-dire qu'elle rit de l'avenir, de ce qui a pu se passer avant, ce qui pourra se passer après. Elle n'a même plus... Quand tu rigoles, ça enlève le souci. De toute façon, tu as deux solutions. Soit tu fais la gueule, soit tu rigoles. Choisis. Je suis convoqué au tribunal. Bon, si t'as le décès de quelqu'un, rigole pas forcément. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. Hein? Proverbe 31, 25, je l'ai dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux. » Plaisantez même avec les enfants. Pourquoi jouer un rôle de parent sévère? Ça marche pas, ça. Vous rigolez avec les enfants, on passe du temps. Mais ça n'empêche pas d'user de sévérité aussi. Moi, avec mes enfants, j'ai l'impression de... Je sais pas ce qu'ils ont vécu avec moi, enfin, je sais un peu... Mais moi, je me suis éclaté, puis je m'éclate encore avec eux. Mon fils Nat, quand je commence à blaguer, maintenant, il dit, ça y est, encore une qui va être bien grasse. C'est ça que tu dis, non? Pas grasse, comment tu dis? Elle va être lourde. Non? Hein? Lourde. Pas grasse, lourde. Et par contre, quand ses copains viennent lui dire la même chose, il rigole. Moi, il rigole pas. Non, mais on passe des bons moments quand même. Dans l'ensemble. Ben voilà. Mais ça vaut le coup de rigoler en famille. Faites-le. Puis les célibataires, ben rigolez entre vous. Mais rigolez d'abord sur vous-même et jamais en se moquant de quelqu'un ou en cassant quelqu'un. La mode à aujourd'hui, c'est justement casser. Et moi, cette mode-là, franchement, je crois pas qu'elle vienne de Dieu. Je crois pas. Parce que souvent, je vois, et les jeunes, et il y en a ici, ils disent des vérités pour casser l'autre. On peut casser sur une situation. C'est vrai. Mais que le fait de casser ou de blaguer soit jamais pour couvrir un compte à